Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Confusion entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Et pour cause, les députés provinciaux ont rejeté le projet d'édite budgétaire exercice 2026 suite à plusieurs irrégularités. En réaction, le gouverneur du Haut-Lomami ne considère pas cette décision de l'Assemblée provinciale. Des détails dans quelques instants. Les jeunes de la province du Bazouélé en colère ont incendié 38 maisons dans un de deux quartiers de la cité pour se venger contre les policiers après l'enterrement de deux victimes de leur bavure survenue le soir du 1er janvier 2026 dans les territoires d'Angou. La ville de Mbujimayi bénéficie depuis peu de plus de 100 km de routes asphaltées. Ces ouvrages représentent un progrès majeur pour la mobilité, mais leur entretien demeure un défi. Pour en parler, nous recevons Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD, qui mène chaque semaine des sensibilisations auprès des riverains pour entretenir les routes. Mesdames et messieurs, encore une fois, bon dimanche à tous. Confusion entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Les deux institutions ne s'accordent pas depuis que les députés provinciaux ont rejeté le projet d'édite budgétaire exercice 2026 suite à plusieurs irrégularités. C'était au cours de la plénière du 11 décembre dernier à Kamina. Pour l'organe délibérant, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire conformément à la loi. En réaction, le gouverneur du Haut-Lomami ne considère pas cette décision de l'Assemblée provinciale. Il a, dans un arrêté, confirmé les dispositions du projet d'édite budgétaire exercice 2026. Éclairage avec Paul Mounanga.
Pour les rapporteurs de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami, le gouvernement provincial est censé être démissionnaire depuis que les députés provinciaux ont déclaré irrécevable le projet d'édit budgétaire 2026. Cela conformément aux dispositions légales. Mais il constate que le gouverneur et son gouvernement continuent de travailler. Senghor Kabondo Senghwa.
C'est un manque de respect à la première institution de la province. Et le monde entier doit savoir que dès lors que le budget a été rejeté par l'Assemblée provinciale et qu'il n'y a aucun autre budget qui soit voté par elle et que même l'ouverture des crédits provisoires qui devait couvrir les dépenses du mois de janvier n'a pas été votée et donc toute dépense qui seront effectuées par l'exécutif provincial du 1er janvier jusqu'à X date sera considérée comme un détournement pur et simple.
Dans son arrêté signé le 23 décembre dernier, le gouverneur du Haut-Lomami considère que l'Assemblée provinciale a rejeté le projet d'édit budgétaire exercice 2026 sans motif valable. Et l'arrêté souligne que l'Assemblée provinciale a violé aussi le moratoire du président de la République, suspendant les pétitions et motions. Signalons que le gouverneur et le vice-gouverneur du Haut-Lomami se trouvent à Kinshasa sur invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Aujourd'hui, 4 janvier, la République démocratique du Congo commémore la journée des martyrs de l'indépendance en souvenir des événements du 4 janvier 1959. Ce jour-là, en pleine période de colonisation belge, des émeutes éclatent à Kinshasa, alors appelée Léopoldville. Elles résultent de la coïncidence des deux faits, l'interdiction par l'administration coloniale des activités d'un parti politique et la colère des supporters d'une équipe de football après une défaite. Selon les historiens, ces troubles ont causé plusieurs dizaines de morts ainsi que d'importants dégâts matériels. Pour de nombreux analystes, le 4 janvier 1959 marque le point de départ des revendications congolaises qui mèneront à l'indépendance du pays, proclamée le 30 juin 1960. Rappel des faits avec Alain Irung.
Ce jour-là, le parti Abaco dirigé par Joseph Kasavubu, futur président de la RDC à l'indépendance, avait prévu un meeting sur la place Imka à Kinshasa. L'objectif était de ne pas se laisser distancer en popularité par le MNC de Patrice Lumumba qui avait organisé une semaine plus tôt un rassemblement très suivi. Face aux mises en garde des autorités coloniales et aux tensions déjà vives autour des revendications d'émancipation, Kassavubu et ses partisans décident finalement d'annuler le meeting afin d'éviter d'être tenus responsables d'éventuels débordements. Mais plusieurs milliers de personnes déjà présentes refusent cette annulation. La foule s'énerve, saccage et s'en prend aux colons. La police intervient et réprime violemment les incidents. La situation s'aggrave avec l'arrivée dans le même périmètre des milliers de spectateurs sortant d'un match de football. La confusion et la répression s'intensifient. Les chiffres exacts de ces événements ne seront jamais établis, mais les estimations évoquent au moins une centaine de morts. À partir de ce jour, les revendications congolaises ne cesseront plus jusqu'à l'obtention de l'indépendance le 30 juin 1960.
Ces émeutes du 4 janvier 1959 se sont prolongées pendant deux jours. À leur suite, Kassavubu est emprisonné puis libéré. Très préoccupé par la tournure que prennent ces événements, Charles Van Emmerich, ministre des colonies du Congo et du Rwanda au Burundi, fait un voyage officiel au Congo pour étudier les causes de ces émeutes. Le 13 janvier 1959, au Parlement belge, il prononce un discours dans lequel la Belgique commençait déjà à se préparer à accorder l'indépendance au Congo. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hiron.
Le peuple congolais fera la démonstration de sa sagesse et de sa maturité en entreprenant avec nous l'édification des structures nouvelles et en assumant avec conscience les graves responsabilités de son avenir. Tous ceux qui, dans l'administration territoriale et les autres organes de l'État, dans les missions et les églises, dans les entreprises, grandes et petites, ont accompli jusqu'à présent leur tâche avec tant de zèle et de compétences, puiseront, dans la grandeur des perspectives ainsi précisées, les ressources d'intelligence et de cœur qui raviveront leur dévouement au service du Congo et de la Belgique. La Belgique prend vis-à-vis des populations congolaises un engagement solennel. Ainsi doit se renforcer l'esprit de fraternité et de collaboration confiante qui permettra à deux peuples d'associer en toute liberté leur destin et de s'appuyer l'un sur l'autre dans l'accomplissement de leur vocation propre.
Dans la province du Bazouélé, je l'ai dit en titre, le jeune en colère se venge contre les policiers après l'enterrement des deux victimes de leur bavure survenue le soir du 1er janvier 2026 dans le territoire d'Ango. 38 maisons ont été incendiées dans un des deux quartiers de la cité. L'administrateur du territoire assistant dit avoir pris des dispositions pour que pareils incidents ne se reproduisent plus. C'était hier au terme d'une réunion d'urgence convoquée pour la circonstance. Le point avec Jacques Moukonkole.
Le calme était pourtant revenu dans la cité d'Ango après les funérailles des deux victimes tombées sous les balles des policiers le soir du jeudi 1er janvier. Selon l'administrateur du territoire assistant de cette entité, les corps des personnes décédées ont été enterrés dignement. Un appui financier a été apporté aux familles éplorées à la suite de son plaidoyer auprès du gouverneur de province. Curieusement, déplore Alfred Kipa, des jeunes désœuvreux se sont organisés pour incendier quasiment toutes les maisons des policiers. Même celles du chef de groupement n'ont pas échappé à ce drame.
Il y a eu 5 maisons brûlées et il y a aussi des autres policiers qui ne sont plus ici à nous, ils sont ailleurs, mais on a profité pour brûler. C'est pourquoi nous avons pris la décision pour que nous puissions continuer avec les patrouilles, pour que nous puissions mettre la chasse sur cette barbarie qui est causée par quelques groupes de jeunes.
Dépourvus actuellement de logement, ces policiers ont trouvé refuge dans une maison offerte à l'administration territoriale par une ONG au moment de son départ de ces lieux. Un espace leur sera accordé pour que de nouvelles habitations soit construite pour eux, déclare l'autorité territoriale. Rappelons que deux personnes ont été fauchées par des balles tirées par un policier dans la soirée du 1er janvier, alors que la population se réjouissait à l'occasion du nouvel an. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Situation similaire au Maniema où la dynamique de jeunes pour le développement du territoire de Lubutu hausse les tons pour dénoncer les actes d'atrocité dont sont victimes les habitants de ces territoires. Le dernier cas en date est celui intervenu samedi matin au village
village Babonjela dans le secteur de Bokote où un civil a été tué par un élément de la police à la suite d'une incompréhension. Fait confirmé par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Lawamo Selemani, qui fait savoir que cet élément incontrôlé est déjà aux arrêts pour répondre de ses actes. On écoute à ce sujet Murphy Kitumaini, coordonnateur national de la dynamique des jeunes pour le développement de l'Ubuntu. Il plaide pour l'implication des autorités compétentes et du président de la République afin que l'autorité de l'État soit rétablie dans cette partie du Nord Maniema. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Nous condamnons avec la plus grande fermeté les meurtres à répétition dont est victime la population civile du territoire de l'Ubuntu. Le dernier cas en date survenu ce matin à Obongel, où un civil a été froidement abattu par des éléments présumés des FARDC, vient une fois de plus de plonger la communauté locale dans la douleur, la peur et l'indignation. Ces actes graves, inacceptables et contraires à la mission régalienne de protection des citoyens constituent une violation flagrante des droits humains et de l'état de droit. La population de l'Ubuntu ne peut plus continuer à vivre sous la terreur de ceux qui sont censés assurer sa sécurité. Nous interpellons avec insistance les autorités provinciales et nationales, ainsi que le service de sécurité et de défense, ainsi que toute la lumière soit faite sur ces crimes, que les auteurs soient identifiés, traduits en justice et sévèrement sanctionnés conformément à la loi. L'impunité ne peut plus y être tolérée. Nous lançons également un appel solennel au chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, afin qu'il s'implique personnellement pour mettre fin à cette spirale de violence et restaurer l'autorité de l'État à l'Ubuntu et assurer la protection effective des populations civiles. La vie humaine est sacrée. L'Ubuntu a droit à la paix et à la sécurité aussi, à la justice.
Au Congo central, pendant ces temps, les festivités du Nouvel An ont été marquées par une vague de vols armés à Kinzamvwete, cité située dans le territoire de Sekebanza. Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, plusieurs maisons d'habitation et des commerces ont été attaquées par des criminels communément appelés Kuluna. Ils ont terrorisé la population et emporté plusieurs biens de valeur et de l'argent. Le commandant de la police de la cité de Kinzamvwete, Sylvain Bakulu, qui confirme cette information, invite la population à collaborer avec la police pour faciliter l'arrestation de ces criminels. Nana Plurichmambo.
Selon les victimes, les malfrats cagoulés munis d'armes blanches ont opéré en groupe la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 et même encore le 2 janvier 2026, principalement dans les quartiers Mobutu et Mpenzatubi. Ils ont menacé de mort les occupants d'environ 15 habitations avant de leur soutirer de l'argent et de biens de valeur. Plusieurs personnes ont été grièvement blessées à la machette lors de ces attaques. Les commandants de la police de la cité de Kinzamvwete expliquent le déroulement des faits et appellent la population à collaborer avec la police. Sylvain Bakulu.
Ces gens-là jouaient de malin pendant que nous sommes en train de patrouiller autre quartier et ils ont fait les renverses et vont attaquer l'autre quartier. De 1h à 3h du matin, ils ont pu visiter 11 maisons dans le quartier Mobutu avec modus operandi, de morceaux de pierre et de briques cassant des portes en bois qui la population puisse renforcer la police en information en fait de récupérer ces gens-là.
Ces responsables de la police affirment que ces attaques surviennent après une longue période d'accalmie. D'après lui, cette insécurité est occasionnée par la libération massive des bandits par les parquets près le tribunal de paix de Kinzamvwete, faute des plaignants pouvant charger leurs dossiers judiciaires. Matadi, Nana Pluriche Mambu, Radio Okapi.
Au terme d'une ordonnance présidentielle lue le mercredi 31 décembre 2025 à la télévision publique, la République démocratique du Congo institue un nouvel ordre national dénommé Ordre national du Léopard. Par cette ordonnance, le président Félix-Antoine Tshisekedi promulgue la loi portant création de cet ordre adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais qui peut être admis à cet ordre et à quelles conditions? La réponse dans ce condensé proposé par Alain Hiron qui a lu cette loi.
Selon le document officiel, l'Ordre national du Léopard est destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation. Les grades sont conférés par ordonnance du président de la République après avis de la chancellerie des ordres nationaux, principalement aux citoyens congolais. À titre exceptionnel, ils peuvent également être attribués à des étrangers. Pour être admis, il faut avoir exercé pendant au moins 20 ans des fonctions civiles ou militaires assorties des mérites reconnus. Toutefois, le président de la République peut, par dérogation, admettre toute personne s'étant distinguée par un service extraordinaire rendu à la nation, un acte de dévouement exceptionnel ou une action d'éclat. Dans tous les cas, le grade d'admission est celui de chancelier. La loi prévoit également la réhabilitation des personnalités admises ou promues par l'ordonnance loi numéro 66/329 du 24 mai 1966, prise par le président Mobutu Sese Seko qui avait institué le premier ordre national du Léopard. Par ailleurs, les personnes déjà admises dans l'ordre national des héros nationaux Kabila Lumumba conservent leur grade équivalent dans le cadre de la nouvelle loi.
Dans le même registre, les mouvements du peuple pour le Zaïre saluent l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de restaurer l'ordre national du Léopard. La secrétaire nationale en charge de la communication de ces mouvements citoyens, Myriam Ingessé, a livré cette information ce dimanche lors d'un entretien accordé à Radio Okapi. Elle estime que cet acte du président de la République s'inscrit dans la sacralisation du pouvoir étatique et marque le début de la renaissance du Grand Congo. Myriam Ingessé au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
C'est depuis longtemps que notre mouvement citoyen cherche à attirer l'attention du chef de l'État sur le bien fondé de retourner à une tradition historique sacrée de notre pays, l'ordre national de Léopard institué par le feu maréchal Mobutu. Vous savez, en 1966, avait été décerné jusqu'en 1997. En le rétablissant aujourd'hui, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, réinscrit la distinction dans la continuité de l'histoire institutionnelle de notre pays. Et symboliquement, on peut dire, c'est la la volonté de reconnaître qu'un État peut traverser des mutations, comme le cas de notre pays, mais conserve des mémoires et des repères qu'il peut réactiver en tout moment. Pour les mouvements du peuple pour les Zaïre, le recours à l'ordre national du Léopard est une bonne manière de mettre à jour la sacralisation du pouvoir étatique. Et cela marque pour le MPES les débuts de la Renaissance. L'AFDEL a voulu effacer, nous devons se le dire, monsieur le journaliste, les 32 ans d'histoire du pouvoir de Mobutu qui incarne la paix, l'unité et la tranquillité.
Et puis les fonctionnaires de l'État du Grand Équateur ont du mal à accéder à leur salaire. À Guadolité, certains agents n'ont pas perçu la rémunération depuis 3 mois. À Mbandaka, les fonctionnaires n'ont pas touché leur salaire du mois de décembre à temps. Ce n'est que tard dans la soirée de vendredi qu'ils ont reçu des notifications des virements bancaires. Conséquence, ils ont passé dans la morosité les festivités de fin d'année. Ce samedi, un engouement massif a été observé devant les banques où les agents se sont précipités pour retirer leur salaire. Reportage à Skin Zigba Tayoro.
Comment fêter sans rien dans la marmite, s'interroge un agent de la fonction publique basé à Mbandaka qui n'avait pas touché son salaire depuis décembre 2025. Venu retirer son dû le samedi matin, son mécontentement s'est amplifié face aux tracasseries rencontrées devant la banque qui les paye habituellement.
En tout cas, c'est pitoyable. Plus moyen d'en parler. Nous sommes responsables, mariés, pères de plusieurs enfants. Surtout moi, suis locataire. Mon bailleur me dérange beaucoup pour l'argent des loyers. Ça fait pitié. Les enfants ont fêté dans la famine. Alors, on était surpris de recevoir hier soir les notifications des virements bancaires de nos salaires. Mais en venant ici à la banque Tembe, on a trouvé plein de monde. Ce qui se passe ici, c'est la corruption. Il faut donner au service de sécurité 10 000 francs congolais pour pouvoir bénéficier de la facilité de toucher son salaire.
Selon les témoignages recueillis, les fêtes de fin d'année ont été synonymes de privation pour ces fonctionnaires du Grand Équateur. Ils estiment que le salaire qu'ils viennent de percevoir ne suffiront pas à compenser l'ambiance festive de Noël et du Nouvel An qu'ils ont manqué. Un constat partagé par les agents de Zongo, Gemena et Gbadolite. Plusieurs fonctionnaires appellent donc le gouvernement congolais à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter de tels désagréments à l'avenir.
Actualité internationale.
Au Venezuela, les réactions sont nombreuses depuis cette opération militaire américaine qui a conduit aux frappes sur Caracas et à l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dit que c'est un dangereux précédent et que le droit international n'a pas été respecté. L'Union européenne a appelé au respect du droit international et rappelle son attachement à une transition démocratique et pacifique au Venezuela. En Afrique aussi, de nombreuses voix se sont fait entendre.
L'invité.
La ville de Mbujimayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, bénéficie depuis peu de plus de 100 km de routes asphaltées. Ces ouvrages représentent un progrès majeur pour la mobilité, mais leur entretien demeure un défi. L'office des voiries et drainages mène chaque semaine des sensibilisations auprès des riverains pour entretenir les routes, éviter de jeter les bouteilles en plastique dans les caniveaux et protéger les lampadaires solaires qui éclairent ces routes. Mais la participation citoyenne reste faible, ce qui menace la durabilité de ces investissements. À cet effet, Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD, est l'invité de la radio Okapi. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Trésor Kachala.
Bonjour, madame la journaliste.
Quel est l'état des lieux des routes asphaltées en Mbujimayi?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Nous pouvons noter que les projets qui ont été mis en œuvre depuis 2022 sont finissants. Il y a le projet Chilegelou qui est exécuté pratiquement à 98%. Le projet 35 km qui a été achevé, réceptionné. Nous sommes en train de finaliser quelques travaux sur le compte de l'avenant du projet 35 km, notamment sur l'avenue Chulamutombo qui a été délocalisée sur Bémé, ainsi que l'environ de l'université de Mbujimayi. Donc cela s'ajoute le projet de 14 km qui est en train de poursuivre son train normal malgré quelques difficultés que connaissent l'entreprise, notamment sur les paiements de ses prestations et sur la forte pluviométrie que connaît la ville, ce qui cause certains ralentissements des projets. À cela s'ajoute ajouterai aussi le projet de lutte anti-érosive sur les sites Monseigneur Kongolo et Moulamba Mpoyi. Le premier avance normalement, le second est momentanément arrêté faute de paiement. Voilà l'état des lieux des projets en cours d'exécution sur la ville de Mbujimayi.
Combien de kilomètres reste-t-il à asphalter?
Nous sommes en train de travailler pratiquement sur 15 kilomètres pour achever tout le programme qui était mis en œuvre.
Nous avons vu sur votre page Facebook, l'OVD a écrit que la chaussée n'est pas un dépôt des matériaux de construction. Comment les routes asphaltées peuvent-elles être entretenues?
Merci madame de revenir sur cette question. Effectivement, nous avons pris le temps de sensibiliser la population sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et toutes les occasions qui nous sont données pour préserver ces investissements chèrement acquis. La province du Kasaï oriental peut compter aujourd'hui plus d'une centaine de kilomètres en cours de mise en œuvre. Ceci implique que la population doit changer des habitudes. Il faut aussi également noter que la province du Kasaï oriental est en construction, pas seulement sur le plan des infrastructures de voirie, mais aussi des habitations. Nous voyons sur plusieurs quartiers qu'il y a des constructions qui poussent. C'est comme ça que nous sensibilisons la population. Mais il faut retenir aussi que quand on fait des travaux de construction de grands bâtiments, il faut aménager son entrée. Parce que les entrées qui vont être faites ou qui seront faites sur les artères ne tiennent pas compte de certains tonnages et de construction. Nous appelons la population à préserver ses investissements. Ceux qui ont des constructions à tenir compte des entrées parcellaires qu'il faut revoir au besoin et les artères qui n'ont pas des entrées, je pense que les travaux sont en cours d'exécution. L'entreprise pourra revenir pour placer des entrées là où il faut les mettre.
D'après vous, qu'est-ce qui justifie le dépôt des matériaux de construction sur la chaussée?
C'est simplement la prolifération des chantiers. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Pour nous, c'est un signal positif que la ville, elle est en train de se construire. Sous cette lancée-là, il y a quelques dérives que nous essayons d'encadrer et d'amener la population à comprendre qu'il y a une autre manière de faire. Donc, si on veut faire l'entreposage des matériaux sur la voie publique, on devrait requérir l'autorisation du bourgmestre de sa commune. Si on veut accéder avec les matériaux dans sa concession, dans sa parcelle, on doit aménager une entrée adaptée à ces travaux-là. Donc c'est une sensibilisation que nous faisons pour que la population puisse s'y habituer.
Sur l'avenue Chibombo, il y a l'entreprise JMC qui a aussi déposé les matériaux de construction sur la chaussée. Comment réagissez-vous par rapport à cela?
Je pense que ce point a fait l'objet d'une réunion où nous avons demandé à l'entreprise JMC d'évacuer ces matériaux de construction qui ont été placés sur la voie publique. C'est une très mauvaise chose parce que ces granulats vont endommager déjà les travaux neufs qui sont faits parce que les enrobés ont une durée pour durcir suffisamment et que ces matériaux avec le trafic vont détruire la surface des enrobés.
Monsieur Trésor Kachala, merci.
Merci madame.
C'était notre invité Trésor Kachala, directeur provincial de l'OVD Kasaï Oriental, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jean-Gandou Kabongo et la mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.